Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. Chaque année, quantité de Bibles sont vendues dans le monde et il est impossible d'estimer les millions d'exemplaires qui ont été édités et distribués. La Bible a été traduite en plus de 2000 langues ou dialectes et cependant, c'est le livre le moins compris. Dans les tribunaux du monde occidental, on demande aux témoins de prêter serment devant un Christ en croix ou de poser la main sur la Bible en affirmant « Je jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. » Le plus étrange, c'est que Jésus lui-même a déclaré « Mais moi je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. » Et le Christ conclut en disant « Que votre parole soit oui, oui, non, non, car ce qu'on y ajoute vient du malin. » À ce sujet, l'apôtre Jacques ajoute sous l'inspiration divine « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » N'est-ce pas étrange que dans des pays de tradition chrétienne, la justice impose un serment, que ce soit sur la Bible ou devant un crucifix, alors que c'est en contradiction avec l'enseignement du Christ. Il est fort possible que ceux qui ont mis au point cette procédure n'ont peut-être jamais lu la Bible en entier. Le Christ rencontra la même ignorance chez les scribes et les pharisiens. Ils étaient supposés avoir passé une grande partie de leur existence à étudier les Écritures. Cependant, ils s'étaient égarés du Dieu qu'Abraham, Moïse et David avaient adoré. Par conséquent, lorsqu'ils se référaient à leur tradition ou faisaient des reproches au Christ, celui-ci leur posait la question « N'avez-vous pas lu ?» ou « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?» et ils poursuivaient en citant un passage précis qui répondait à leurs critiques. L'humanité est peu disposée à mettre en pratique les principes contenus dans le manuel d'instruction que son Créateur lui a donné. La plupart des hommes se disent trop occupés que pour lire ce livre en profondeur. Trop souvent, on le considère comme une collection de contes, de légendes ou de superstitions. Ou alors, on le lit pour y trouver la confirmation des croyances et des traditions qu'on pratique. C'est alors que la Bible devient telle que le prophète Ésaïe l'a décrite. Toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne le puis car il est cacheté » ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire en disant « Lis donc cela » et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Combien de gens se disent chrétiens, donc disciples du Christ, possèdent une Bible mais ne s'y intéressent pas? L'apôtre Paul a écrit « Ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. » Fréquemment, les membres du clergé persuadent les masses qu'on ne peut comprendre la parole de Dieu. Trop souvent, ils découragent les gens de se plonger dans une étude approfondie des Écritures. Il vaut mieux garder les gens dans l'ignorance, de peur qu'ils ne discernent les contradictions entre ce qu'on leur enseigne et les saintes Écritures. De toute façon, l'homme croyant moyen n'a pas le moindre intérêt pour l'étude de la révélation divine. Il préfère se reposer sur les enseignements du clergé, comme si Dieu n'avait pas été capable de se faire comprendre par tout le monde. Le livre de l'Apocalypse est un bel exemple de ce genre de raisonnement. Ne déclare-t-on pas que ce livre est rempli de symboles et d'images dont la signification profonde est cachée et ne peut être comprise? On affirme que ce livre est scellé, voilé, caché, que personne ne peut réellement le comprendre. Mais comment comprendre ce livre quand on lui donne un titre contraire à son contenu? En effet, les commentaires bibliques lui attribuent le titre « Apocalypse de Jean » ou de « Saint Jean ». Pourtant, Les premiers mots que nous découvrons dans ce livre sont « Révélation de Jésus-Christ ». Il ne s'agit donc pas de la révélation de l'apôtre Jean. Celui-ci est tout simplement le scribe de celui qui donne cette révélation, c'est-à-dire Jésus-Christ. Apocalypse est le mot original grec, signifiant « révélation ». Révéler, c'est dévoiler, divulguer, c'est faire découvrir, faire connaître ce qui est inconnu ou secret. C'est une action par laquelle Dieu dévoile aux hommes les vérités qu'ils ne pourraient découvrir par leurs propres moyens. Il n'y a donc rien de caché ou de scellé dans ce dernier livre du Nouveau Testament. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. La signification de ce livre n'est donc pas cachée, et ceux qui le lisent en seront heureux, autrement dit, ils en seront bénis. La vaste majorité de ceux qui reconnaissent l'autorité de l'Ancien Testament uniquement considèrent le Nouveau Testament comme étant sans valeur, alors que ceux qui croient uniquement au Nouveau Testament vous déclareront la même chose au sujet de l'Ancien. Qui a raison? C'est Jésus qui répond quand il affirme « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette citation qui se trouve dans le Nouveau Testament est tirée de l'Ancien Testament. « Afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Quant à l'apôtre Paul, il écrit à Timothée « Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres. » Ici, le mot « lettre » est traduit du grec « gramma », signifiant aussi une épître, un livre, qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. À l'époque où l'apôtre Paul écrit ces lignes, ces épîtres n'étaient pas encore groupées comme faisant partie du canon des Écritures. Celles de Pierre et Jean n'étaient pas encore rédigées. Autrement dit, les seules Écritures qui existaient à ce moment-là étaient celles de l'Ancien Testament. À ceux de son époque, qui se considéraient comme religieux et qui étaient considérés comme tels, Jésus dit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Je sais que vous n'avez point en vous l'amour de Dieu. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres? Si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi parce qu'il a écrit de moi. Il a écrit à mon sujet. Ce reproche, Dieu pourrait le faire à beaucoup de chrétiens modernes. La plupart ignorent que celui qui possède l'amour de Dieu observe ses commandements. C'est ce que l'apôtre Jean confirme lorsqu'il écrit « Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Jésus donne ici une excellente raison pour tout homme de sonder les Écritures. Si vous voulez vraiment connaître la volonté de Dieu, commencez par lire la Bible de la première page jusqu'à la dernière. Vous y trouverez de nombreux conseils simples et pratiques sur la manière de conduire votre vie pour être heureux. Qu'il soit question d'histoire, d'intrigue, de sexe, de violence, de poésie, de logique, de prophétie, vous y trouverez tout cela. Vous ferez rapidement connaissance avec des principaux personnages, Noé, Abraham, Isaac, Moïse, David, les différents prophètes, Jésus, Jean et Paul. Les choses qui leur sont arrivées sont réelles. Elles ont été écrites pour nous servir d'exemple et pour nous guider dans notre vie quotidienne. À la lecture de la Bible, vous constaterez que l'Ancien Testament n'a nullement été aboli, qu'il n'est ni effacé ni même ancien. Il contient une étonnante proportion de citations qui sont reprises dans le Nouveau Testament et à son tour, celui-ci contient de nombreuses références à l'Ancien. Vous y découvrirez en outre un grand nombre de déclarations qui, dans un langage simple, contrediront ce qu'on vous a enseigné. La Bible vous surprendra. Le fait qu'un prédicateur affirme de la façon la plus formelle et en martelant son pupitre « la Bible dit » ne signifie pour autant pas qu'elle déclare une telle chose. N'oubliez pas que les autorités religieuses de l'époque du Christ étaient aussi catégoriques. Vous pourrez alors leur répondre tout simplement, comme le Christ le demandait aux scribes et aux pharisiens, « N'avez-vous pas lu dans les Écritures ?» À la lecture de ce livre, beaucoup de questions vous viendront à l'esprit. Mais au fur et à mesure que vous avancerez dans la lecture de la parole inspirée de Dieu, vous trouverez les réponses à bon nombre d'entre elles. Il ne faut pas avoir fait des études de théologie pour comprendre la parole de Dieu. Il suffit de voir qui le Christ choisit pour devenir ses apôtres. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheur d'hommes. » Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui était dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparait leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque à leur père et le suivirent. C'est émouvant de constater que l'esprit le plus simple, oui, j'ai bien dit, le plus simple, lorsqu'il est guidé par l'Esprit de Dieu, peut comprendre la vérité, la Bible. Il ne faut pas être un génie pour arriver à connaître Dieu comme le roi David le connaissait. Il ne cherchait qu'à faire sa volonté. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. À toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. De génération en génération, ta fidélité subsiste. Tu as fondé la terre et elle demeure ferme. C'est d'après tes lois que tout subsiste aujourd'hui, car toutes choses te sont assujetties. Combien j'aime ta loi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres, car tes préceptes sont l'objet de ma méditation. J'ai plus d'intelligence que les vieillards, car j'observe tes ordonnances. Je retiens mon pied, loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence au simple. Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Avant de terminer, je voudrais attirer votre attention sur l'attitude que nous devons avoir à la lecture de la Bible. C'est le prophète Ésaïe qui nous révèle cette attitude. « Voici sur qui je porterai mes regards. » Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, sur celui qui craint ou qui respecte ma parole. Écoutez la parole de l'Éternel, vous qui craignez sa parole. Voici ce que disent vos frères qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel monte sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. La semaine prochaine, je poursuivrai ce sujet. Je vous ferai découvrir quelques vérités peu connues. Je vous démontrerai pourquoi vous avez intérêt à sonder les Écritures, et vous pourrez ensuite dire à votre tour, « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures ?»